France Inter, franceinter.com.
Vous ne trouvez pas bizarre d'être exécré à la fois pour ce qu'on est et pour ce qu'on n'est pas. De Gaulle à André Malraux, 1970. Deux mille ans d'histoire. Aucun Français au XXe siècle n'a été à la fois admiré et détesté autant que le général de Gaulle, depuis l'appel du 18 juin par lequel il est entré dans l'histoire, jusqu'à son départ du pouvoir en 1969. Pendant 29 ans, il a dressé contre lui successivement ou en même temps toutes les familles politiques françaises, depuis l'extrême droite pétainiste ou Algérie française jusqu'à l'extrême gauche. Crypto-communiste à la solde de l'étranger et des juifs pour les collaborateurs, bradeur d'empire pour l'OAS, fasciste pour les communistes et les étudiants de mai 68, traité même de dictateur par François Mitterrand, pour ses adversaires, de Gaulle était tout et le contraire de tout. Jusqu'à ce que, désavoué pour la première fois par les Français au référendum de 1969, il quitte définitivement le pouvoir, sans imaginer que 38 ans après sa mort, de la droite à la gauche, presque tout le monde se réclamerait aujourd'hui du gaullisme. France Inter, Patrick Roger, le 10 novembre 2006.
France Inter.
Nicolas Sarkozy déroule sa campagne, meeting hier soir à Saint-Étienne. C'est en pensant à De Gaulle que j'en appelle à la rupture, a dit le président de l'UMP, qui au passage a souligné qu'il n'avait pas été invité hier avec Jacques Chirac, Dominique de Villepin et Michel Alliot-Marie à Colombelles-les-Deux-Églises pour l'hommage au général. Nicolas Sarkozy qui a donné sa vision de ce que doit faire la France face à la mondialisation.
Je ne sais pas ce que dirait ni ce que ferait le général De Gaulle dans le monde d'aujourd'hui, mais je sais ce qu'il nous a appris à travers ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Il nous a appris que dans le monde tel qu'il est, la France ne peut continuer d'exister que si elle le veut. Et que face au déclin de la France, on n'a jamais le droit de répondre « je n'y peux rien ».
François Broche, bonjour.
Bonjour.
Alors, il est encore un peu tôt pour savoir si le gaullisme de Nicolas Sarkozy en 2006 était sincère ou s'il n'était ou s'il faisait partie d'une campagne présidentielle pendant laquelle, d'ailleurs, tous les grands candidats, de Nicolas Sarkozy à Ségolène Royal en passant par François Bayrou, ont fait référence au gaullisme, vous le rappelez, dans un livre, une histoire des anti-gaullismes, publié chez Bartilla. Mais comment définir l'anti-gaullisme alors que De Gaulle lui-même n'a jamais parlé, n'a jamais voulu définir le gaullisme? C'est un mot qu'il n'employait jamais, il n'a jamais prétendu être le fonder une doctrine.
Non, absolument pas. Il n'aimait pas d'ailleurs ce mot, ni en substantif, ni en adjectif. Il préférait parler d'une certaine idée de la France, fondée sur la grandeur, l'honneur, l'intérêt national, mais il rejetait catégoriquement toute idée de doctrine. Souvenez-vous de la phrase qu'il met en exergue au fil de l'épée, « Au commencement était le verbe, non, au commencement était l'action ». Le gaullisme est donc un pragmatisme, c'est-à-dire non pas un opportunisme en fonction des circonstances, mais une adaptation réfléchie au réel, si on peut dire. Donc, parler de gaullisme comme d'anti-gaullisme, ce sont des commodités pour la facilité du discours.
Avec quelques grands principes immuables quand même, l'indépendance nationale, la grandeur, la place de la France dans le monde. Et alors, qui ont suscité contre lui plusieurs formes d'anti-gaullisme. Vous dites aussi qu'il avait l'art de se faire des ennemis. Alors, il les a fait dans toutes les familles politiques et à tous les moments de l'histoire, dès 1940, d'abord bien sûr, avec le régime de Vichy qui l'a condamné à mort.
Oui, parce que l'appel du 18 juin peut être considéré comme l'acte fondateur de tous les antigaullismes. Vous avez noté que je parle des antigaullismes et non pas d'un antigaullisme. parce que ce sont des antigaullismes qui viennent de tous les horizons politiques et idéologiques et qui n'ont en commun que la détestation qui va jusqu'à la haine du général de Gaulle. L'appel du 18 juin à Vichy a été ressenti comme un appel à la révolte. Oui. Contre le gouvernement légal et légitime.
Il faut bien le dire aussi, à l'époque n'étant absolument pas connu, les Français désespérant d'une éventuelle victoire sur une Allemagne qui vient de les écraser, c'est un acte même qui a pu être considéré comme impopulaire dans une bonne partie de l'opinion des Français, qui en revanche connaissaient Pétain et lui faisaient confiance.
Oui, on a parlé d'ailleurs, souvenez-vous, de 40 millions de pétainistes. C'est vrai que le peuple français, dans sa quasi-totalité, suivait le maréchal, le vainqueur de Verdun, n'avait pas assez de recul pour mesurer l'importance des événements. Et seule une petite minorité, dès le départ, refuse la défaite, refuse l'armistice et se déclare prête à reprendre le combat contre l'occupant.
Alors, ce qu'il y a de plus surprenant, c'est d'observer également un anti-gaullisme dans le camp du général de Gaulle, si on peut dire, et même dans la résistance, une partie de la résistance se méfiait du général de Gaulle, François Broche.
Oui, les grands leaders de la résistance, dont le plus important était Henri Frenet, qui était le chef du principal mouvement, reprochaient au général de Gaulle d'être resté à Londres et ne pas avoir mesuré toute la complexité, toute la difficulté du combat mené à l'intérieur de la France occupée. Et en même temps, l'ensemble des mouvements de résistance, quelle que soit leur coloration idéologique, revendiquer une légitimité populaire, une légitimité résistante et qui se situait en marge et qui se considérait comme une rivale des résistants de l'extérieur qui étaient conduits par le général de Gaulle.
Il y avait aussi un homme qui s'est opposé à lui et que de Gaulle n'aimait pas beaucoup, un anti-gaulliste dans le camp des alliés, qui était le général Giraud, sur lequel d'ailleurs s'appuyaient les Américains.
Ben, Giraud était prisonnier en Allemagne. Il avait été fait prisonnier en 1940. Il s'était évadé dans des conditions un peu obscures de la forteresse de Königstein. Et sa première initiative avait été de se rendre à Vichy pour aller rendre visite au maréchal. Ensuite, il était passé en Afrique du Nord, où il s'était mis aux ordres de l'amiral Darlan, qui avait pris le pouvoir après le débarquement allié. Darlan assassiné, Giraud avait pris le pouvoir avec le soutien, très fort soutien des Américains, qui voyaient en lui un rival désigné, possible, contre de Gaulle. Et de Gaulle ne pouvait, malgré tout le respect qu'il avait pour ce vieux militaire glorieux qui était Giraud, ne pouvait que le considérer comme un rival. Et en plus, lui déniait toute légitimité au regard de la résistance intérieure, ce qui était totalement vrai.
Et ce qu'il a réussi à faire en rassemblant derrière lui la quasi-totalité de la résistance, notamment grâce à Jean Moulin, si bien qu'il entrait à Paris en août 1944, triomphalement à l'Hôtel de Ville ou sur les Champs-Élysées, mais accueilli à coups de fusil à Notre-Dame où se cachaient, disait-on, des collaborateurs.
Ici l'Arc de Triomphe, dans la capitale libérée. Les combats sont finis et c'est aujourd'hui le jour de gloire. Car le général de Gaulle, en venant s'incliner sur la tombe du soldat inconnu, va par ce geste libérer des millions d'hommes.
Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
Les gens se camouflent sous les chaises, mais heureusement, mes chers auditeurs, tout au moins dans l'église, il n'y a pas de victimes jusqu'à présent. Le général de Gaulle fait son entrée, il relève les chaises, il a échappé miraculeusement à cet attentat. Le général de Gaulle, très calme, avance vers le cœur. Il se tient droit sous la mitraille, il est vraiment magnifique.
Alors, on n'a jamais très bien su, François Broche, si c'était vraiment des collaborateurs qui auraient tiré sur De Gaulle à Notre-Dame. Il était quand même accueilli dans une grande liesse populaire à Paris, mais là, il y en avait. En fait, l'anti-gaullisme du vichisme, du pétainisme, de la collaboration, il a duré très longtemps, peut-être entretenu aussi par l'amertume provoquée par l'épuration, pour ne pas dire plus.
Sur la fusillade de Notre-Dame, il était probable, comme De Gaulle l'écrira à sa femme, qu'il s'agissait d'une tartarinade de tireurs isolés, qu'il ne faut pas y voir un complot, soit des collaborateurs, soit des communistes, comme il l'a pensé lui-même ensuite. Alors, l'anti-gaullisme évidemment été la revanche des perdants, de ceux qui avaient été épurés en 1944-46, qui avaient été condamnés très peu, d'ailleurs très modérément. Je ne parle pas l'épuration sauvage, qui était une autre affaire, mais l'épuration légale a été très, très modérée. Et donc, il y a cet esprit de Vichy, cet esprit de la collaboration qui est demeuré très vivace, qui s'est perpétué à travers des journaux, des associations d'anciens et jusqu'à nos jours.
Alors, il avait une telle popularité en 1944 que tous les partis politiques se sont retrouvés derrière lui dans un gouvernement provisoire d'union nationale. Il n'a pratiquement aucun opposant. Ça, c'est pour l'apparence. Car dans la réalité, dès 1944 et en 1945, ils vont tous se dresser contre lui et même le poussé à quitter le pouvoir en janvier 1946 parce qu'il a des adversaires aussi bien au sein du Parti communiste que au MRP, qui était un parti centriste. Et là encore, on voit réapparaître dès le lendemain de la guerre un antigaullisme qui va durer toute la 4e République.
Voilà, je dirais plutôt plusieurs antigaullismes qui s'ajoutent. L'antigaullisme des résistants, celui des collaborateurs, des ex-collaborateurs, et celui des partis politiques. Parce que le retour de Gaulle en métropole a signifié le retour des partis politiques. Retour que, en accord avec Jean Moulin, qui était un de ses grands partisans, de Gaulle avait approuvé. Et ce sont en fait l'action des partis politiques qui l'ont amené à la sortie.
Parti qu'il n'aimait pas plus que la 4e République, qu'il appelait le régime des partis d'ailleurs, et qui vont le pousser, le chasser du pouvoir. Il va connaître une longue traversée du désert après l'échec de son propre parti, le RPF, qui a d'ailleurs dressé contre lui les communistes. C'était un parti, le RPF, un mouvement, le Rassemblement du Peuple Français, mais très anticommuniste. Et là, il y a eu une opposition communiste qui s'est manifestée et que l'on va retrouver d'ailleurs après cette traversée du désert, lorsqu'en 1958, l'armée s'emparait du pouvoir en Algérie et que le président de la République, René Coty, faisait appel au général de Gaulle pour résoudre le problème algérien, ce qui inquiète alors ceux qui soupçonnent de Gaulle de vouloir mettre en place un régime autoritaire en s'appuyant sur l'armée, une crainte que de Gaulle s'efforce d'apaiser dans une conférence de presse le 19 mai 1958.
Parce que je suis un homme seul, que je ne me confonds avec aucun parti et aucune organisation, que depuis 6 ans, je n'exerce aucune action politique, que depuis 3 ans, je n'ai fait aucune déclaration, bref, que je suis un homme qui n'appartient à personne et qui appartient à tout le monde.
Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales ?
Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales ? Je les ai rétablies. Et y ai-je une seconde à tenter? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur?
Alors c'était une manifestation anti-gaulliste le 26 mai 1958, une bonne partie de la gauche, malgré les propos que l'on vient d'entendre, je ne veux pas commencer une carrière de dictateur, craignent que effectivement, puisque son retour au pouvoir provient d'une prise de pouvoir par l'armée en Algérie, eh bien craignent au fond qu'il commence justement une carrière de dictateur. C'est ce qui a coupé de Gaulle dès le début de la 5e République d'une bonne partie de la gauche, François Broche.
Oui, c'est un argument d'ailleurs, personne ne l'a dit, mais je trouve que c'est un argument qui a soulevé une hilarité justifiée, parce que c'était un de ces nombreux bons mots dont le général était familier. Mais on aurait pu lui répondre très facilement que le maréchal Pétain, lui, avait à 84 ans commencé une carrière de dictateur. Enfin, bref, c'est une...
De Gaulle ne l'a pas été.
Non, De Gaulle n'a pas été un dictateur.
Il a quitté le pouvoir en 69 sans que rien ne l'y oblige à la
Constitution. Il a été appelé au pouvoir par, non seulement par l'opinion française, mais par les partis eux-mêmes, parce qu'il y avait ce cancer du problème algérien qui durait depuis 4 ans et que personne ne pouvait résoudre. On avait essayé des tas de formules gouvernementales et on n'avait pas pu le résoudre. Et c'est cette impuissance à régler le problème algérien qui a entraîné la mort de la 4e République et non pas un je ne sais quel fantomatique coup d'État de Gaulle.
Oui, mais en même temps, une volonté de sa part, c'est la condition de son retour au pouvoir, de transformer les institutions dans un sens que certains jugeaient autoritaire. Il y a un article 16 qui n'a pratiquement jamais été employé qu'une seule fois. Mais, par exemple, c'est là-dessus que se fonde l'opposition, l'antigaullisme déterminé de François Mitterrand. François Mitterrand juge la Ve République ou la Constitution comme un coup d'État permanent. Il s'oppose à l'élection du président de la République au suffrage universel, François Braun. C'est vraiment l'antigaulliste, alors, le plus déterminé à l'époque. Et qu'on retrouvera d'ailleurs tout au long de la Ve République.
Oui, ce sera Mitterrand sera le théoricien d'une idée complètement fantaisiste qui est celle du coup d'État permanent. De Gaulle, comme il l'a dit dans sa déclaration du 19 mai, n'a jamais attenté aux libertés démocratiques. Au contraire, il les a rétablies. Et il a, comme Mitterrand d'ailleurs le reconnaîtra lors du débat d'investiture le 1er juin 1958, De Gaulle a établi une nouvelle forme de démocratie. À la fois assurant une large initiative à l'exécutif sans écraser la représentation parlementaire. Ce sera une nouvelle formule qui n'a rien du régime présidentiel.
En tout cas, il incarne au plus haut point l'antigaullisme de gauche. Mais alors, c'est une opposition à laquelle s'ajoute un autre antigaullisme infiniment plus dangereux, celui que provoque la politique algérienne de De Gaulle et qui dresse contre lui l'armée en 61, qui tente de prendre le pouvoir en Algérie, et en 1962, l'OAS.
Aujourd'hui, l'organisation armée secrète a interrompu les émissions de la radio Gaulliste pour vous faire entendre la voix de l'Algérie française. L'OAS vaincra.
Les préfets de police d'Oran et d'Alger viennent d'interdire à leurs administrés de stationner ou de circuler sur les terrasses et les balcons des immeubles. Pendant ce temps, à l'Élysée, l'ex-général de Gaulle sablait le champagne pour arroser le ministère Pompidou, son pompier de service. Ainsi, les bourreaux gaullistes prétendent spolier des citoyens français de leur droit de respirer. Et un jour, sur les balcons et les terrasses de toutes les villes d'Algérie, on fera comme à l'Élysée, on sablera le champagne. Ce sera ce jour-là pour le requiem de De Gaulle.
Et ce n'était pas des mots en l'air, François Broche, parce qu'effectivement, l'OAS a été le plus loin dans son opposition au gaullisme. Elle a tenté d'assassiner De Gaulle à plusieurs reprises. C'était le plus déterminé des antigaullismes.
Il y a eu une dérive absolument irrésistible depuis le combat pour l'Algérie française, qui était un combat parfaitement respectable dans la mesure où il n'excédait pas les bornes de la démocratie.
Et il concernait aussi des gens qui allaient être chassés d'Algérie, c'est-à-dire les pieds noirs.
Voilà, dans la mesure où c'était un combat pour la défense d'une communauté, dans la mesure où De Gaulle lui-même, au départ, n'avait pas exclu cette hypothèse. Si vraiment il l'avait jugée réalisable, il l'aurait fait. Une dérive de ce combat pour l'Algérie française à une espèce d'utopie révolutionnaire dont Jean-Jacques Susini sera plus tard, après 62,
responsable de l'OAS,
le vecteur. Ouais. Ce sera ce sale petit fasciste intelligent, comme disait le général Schall. En 62, au printemps 62, quand les gens de l'OAS voient que c'est fini, que l'Algérie française ne peut plus exister, à ce moment-là, ils se muent en révolutionnaires. À partir de là, la théorie du régicide va entrer tout à fait en action et va être appliquée par un certain nombre de comploteurs.
Alors c'est un antigaullisme Algérie-française qu'on va d'ailleurs retrouver dans tous les combats contre le général de Gaulle, y compris celui qui se présente, qui commence en 1965 à l'occasion de la première élection présidentielle que de Gaulle pensait pouvoir gagner dès le premier tour, mais il était mis en ballottage par le candidat unique de la gauche, François Mitterrand.
Il est là depuis 7 ans. Il a les pouvoirs les plus étendus qu'un Français ait tenu en main depuis Napoléon III. Il réduit le Parlement au rôle d'une chambre d'enregistrement, comme au temps de Louis XIV. Par la télévision, il dispose d'une formidable et permanente propagande quotidienne. Bref, il a eu tout le temps et tous les moyens de réussir. Et il s'agit de savoir qui, du général de Gaulle ou de moi, apportera à la France la stabilité dans ses chances d'avenir.
Ballotage annonce ce matin toute la presse française. Les résultats de ce premier tour, le général de Gaulle, 43,96%.
Monsieur François Mitterrand, 32,04% des voix.
Monsieur Jean Le Canuet, 15,78%.
quand il a su que le pays, ou tout au moins une partie, lui disait non l'hiver dernier. Il a d'abord cru qu'il rêvait, puis comprenant que c'était vrai, il est sorti de l'Élysée. Pour faire une édition spéciale, tout de suite après le journal, à la télévision française. Et quand il eut parlé longtemps, pour couronner ses arguments, il nous chanta la Marseillaise. Vraiment, sa campagne était belle. On ne pouvait pas imaginer, en le voyant battre des ailes, tout ce qui allait nous arriver.
Et c'était une chanson interdite à la radio à l'époque, Suzanne Gabriello, La campagne. La campagne de 65 sans doute, pendant laquelle François Broche, on trouve contre De Gaulle, candidat à la présidence de la République, qui sera élu au deuxième tour, mais qui était mis en ballottage au premier, on retrouve absolument tous les anti-gaullismes. Par exemple, celui d'extrême droite, Tixier Vignancourt, avec Jean-Marie Le Pen, appelle à voter François Mitterrand au deuxième tour.
Oui, et puis je vous rappelle que Tixier Vignancourt s'est désisté en faveur, oui c'est ça, de Mitterrand au deuxième tour. On trouve l'anti-gaullisme du MRP, du Mouvement Républicain Populaire, des démocrates chrétiens. Le Canuet fait tout de même un score très honorable. Et on disait tout à l'heure que Mitterrand avait mis en ballottage De Gaulle. Je dirais plutôt que c'est Le Canuet qui a mis en ballottage De Gaulle. Si la candidature Le Canuet n'avait pas existé, De Gaulle serait peut-être passé au premier tour. Mais enfin, on ne refait pas l'histoire. En fait, c'est vrai que l'élection de 65 a fait deux vainqueurs. De Gaulle, puisqu'il a été réélu. Et Mitterrand, puisqu'il a pris
candidat date unique
pour
de la gauche, candidat avec unique des voix venues de tous les horizons.
Avec des voix venues de tous les horizons et dont il ne rejetait aucune.
Alors ça a évidemment ébranlé le général de Gaulle, qui, contrairement à ce qui s'est passé depuis, aucune élection n'a été gagnée au premier tour, mais lui pensait pouvoir le faire en 1965. Et alors, ébranlé encore par la politique qui allait suivre. Le centre, par exemple, qui lui reproche sa politique anti-atlantiste. En 66, il faut le rappeler, en 67, il condamne l'attaque israélienne pendant la guerre des Six Jours. En 67 aussi, il encourage les indépendantistes québécois en criant « Vive le Québec libre ». Comme vous dites, on a l'impression qu'il recherche vraiment, qu'il attire contre lui beaucoup de gens. En mai 68, et bien sûr au quartier latin, alors là, ça va être les étudiants anti-gaullistes. Pas tellement que ça, d'ailleurs, pas autant que ça, François Broche, dites-vous. Même si on crie « De Gaulle, c'est assez, De Gaulle fout le camp », etc.
Je crois que pour la révolte de 68, évidemment, 10 ans, ça suffit. De Gaulle, avec toutes les insultes, les injures dont pouvait l'accabler à l'époque. Mais le problème n'était pas de se situer par rapport à De Gaulle. Le problème, c'était un problème pour eux de société. On récuse la société de consommation. On prétend inventer un nouveau modèle. On ne disait pas encore alternatif, mais enfin très inspiré par l'écologie de l'époque. Donc De Gaulle est une référence un peu marginale.
Dès que la police intervient, et dès qu'il y a répression, alors là, c'est à De Gaulle qu'on s'en prend aussi. Il y a des slogans de mai 68 qui sont très anti-gaullistes, François Broche.
Oui, CRSSS, évidemment, le régime policier. Mais on a l'impression à ce moment-là que De Gaulle, d'ailleurs, c'est une impression tout à fait vraie, que De Gaulle ne saisit plus très bien la complexité de la situation, d'où le départ à Baden. En fait, on se dresse contre l'ordre policier, pas directement contre la personne du général De Gaulle.
Et d'autant plus qu'on le fait 10 ans après son arrivée au pouvoir. D'ailleurs, d'où les slogans de 10 ans, ça suffit,
10 ans, ça suffit, oui. Et De Gaulle lui-même était conscient de cette usure du pouvoir qu'il ressentait physiquement.
Alors, événements, évidemment, qui font vaciller le régime très affaibli, lorsqu'en 1969, De Gaulle organisait un référendum sur la décentralisation et puis aussi une réforme du Sénat. En réalité, il s'agissait pour lui de retrouver un soutien populaire. Mais alors, il se trouve en face de lui, une fois de plus, les anti-gaullistes de gauche et même dans son propre camp, son ancien ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing, dont le nom allait provoquer l'échec du référendum et le départ du général de Gaulle, François Mitterrand d'abord.
Nous pensons que le référendum est illégal, inconstitutionnel. Nous pensons qu'il n'est pas moralement acceptable.
Le référendum n'est pas un moyen moderne et raisonnable d'engager l'avenir de la France. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, avec regret, mais avec certitude, je ne l'approuverai pas.
Il est grand temps de comprendre qu'il n'y a pas d'après-gaullisme contre le général de Gaulle.
André Malraux.
Il s'agit, je le répète, du destin de la France. Et aucun gaulliste d'avant-hier, d'hier ou de demain ne pourrait maintenir la France appuyée sur des noms qui auraient écarté le général de Gaulle.
Oui, 49,27%. Non, 50,73%.
La séance est ouverte. 28 avril 1969, je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Signé Charles de Gaulle.
Et c'était Jacques Chaban-Delmas lisant à l'Assemblée nationale le texte par lequel de Gaulle eh bien, quittait le pouvoir définitivement. Alors il n'y a pas, disait Malraux, c'était pendant cette campagne pour le référendum, d'après-gaullisme contre le général de Gaulle. Et pourtant aujourd'hui, à entendre la classe politique presque unanimement rendre hommage au général de Gaulle, on a l'impression qu'il n'y a plus que des gaullistes, que l'anti-gaullisme a disparu, François Broche.
Pas tout à fait. Il persiste comme une sorte de nostalgie. Je parlais tout à l'heure des anciens vichistes qui continuent à présenter le maréchal Pétain comme l'homme qui a le premier résisté aux Allemands. Et il y a également, il persiste également, je dirais, de façon beaucoup plus subtile dans la façon d'écrire l'histoire, dans la façon aujourd'hui, dans l'historiographie moderne, où on a l'habitude de remettre en perspective les événements du passé, parce que, ce qui d'ailleurs part d'une démarche en principe raisonnable, il faut toujours, à la lumière de nouvelles archives, d'éléments nouveaux, remettre en perspective le passé. Mais là, on le fait, semble-t-il, avec un parti pris délibérément gaulliste. Je rappelle l'importance du film de 1970, Le Chagrin et la Pitié.
Délibérément anti-gaulliste, vous voulez dire
avec délibérément anti-gaulliste, oui. On s'est, à la suite du Chagrin et la Pitié, on s'est précipité dans cette brèche ouverte où on a montré que de Gaulle, finalement, avait eu un rôle moins important qu'on l'avait prétendu.
Oui, mais ça, c'est, vous le dites, c'est marginal. Quand même, on a l'impression que, vous en faites la liste, d'ailleurs, que tout le monde est devenu gaulliste après de Gaulle, même ses anciens adversaires. Vous dites de François Mitterrand qu'il est anti-gaulliste gaullien, de Giscard qu'il était agaulliste, de Chirac gaulliste agaulien, mais tout le monde fait... Si d'ailleurs vous rappelez des sondages qui indiquent qu'aujourd'hui, si le général de Gaulle était candidat, eh bien, l'opinion publique était votée massivement pour lui, et là, dès le premier tour.
Oui,
38 ans après sa mort.
Ce qu'il faut dire à propos du référendum de 69 qui a entraîné son départ, c'est que c'était pas une coalition d'opposants, c'était une addition dans les urnes. Mm-hmm. Il n'y avait pas de démarche volontaire entre les divers anti-gaullistes. Il y avait simplement, dans les urnes, on a constaté qu'il y avait une majorité de gens qui voulaient le départ de Gaulle, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Alors aujourd'hui, oui, écoutez, même si le gaullisme n'est pas un corps de doctrine...
Il sert de référence,
même
si on
trahit. Il sert de référence. Le personnage est écrasant. Sa dimension morale, sa dimension humaine, l'influence qu'il a exercée dans le monde, c'est une référence. C'est le plus grand Français de tous les temps, selon un sondage organisé par la télévision. Donc on est tenté de se définir par rapport à lui.
Merci François Broche. Une histoire des anti-gaullismes, c'est le titre de votre livre récemment publié aux éditions Bartilla. Et puis c'est aussi la raison de cette émission. Je signale donc l'inauguration de l'historial Charles de Gaulle qui sera inauguré après-demain, samedi, aux Invalides à Paris et dont vous êtes membre du conseil scientifique, François Broche. À lire aussi de nombreux livres qui paraissent actuellement sur De Gaulle, La religion gaulliste de Gaetano Quagliariello, publié chez Perrin, De Gaulle d'Yves Guéna, un très bel album composé de photos et de documents en facsimilé publié chez Grund, De Gaulle et Pétain, règlement de compte d'Herbert Lottmann, publié chez Perrin, un sujet qui fera probablement l'objet d'une émission, et enfin Comment parler de De Gaulle aux enfants de Camille Meyer-Léotard aux éditions du Baron Perché, puis d'autres livres dont vous pouvez retrouver les références au téléphone au 3230 ou encore sur notre site internet franceinter.com, 34 centimes la minute. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Christian Thibaudeau et Cédric Lalanne, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destac et Émilie Trazante, et des réalisations de Anne Comilac. Demain, dans notre émission, une histoire originale, les cafés-concerts.